On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les as de l'info. Quand les ours font un tour en ville. Un texte de Clémence Tessier, paru le 29 septembre 2025 dans les as de l'info. L'été dernier, des ours noirs se sont invités en ville. Du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu'au nord de l'Ontario, des citoyens ont aperçu des ours près des commerces, dans les rues, et même parfois dans leur cour arrière. Mais si les ours sortent de la forêt, ce n'est pas pour essayer les balançoires ni pour magasiner. Alors, qu'est-ce qui les attire en ville? Allons voir. Des visiteurs gloutons. Les experts disent que la principale raison, c'est la nourriture. Cette année, les bleuets et autres petits fruits dont les ours raffolent étaient plus rares dans la forêt. Pourquoi? Parce que la météo n'a pas été idéale. Au printemps, il a fait plus froid que d'habitude à certains endroits et plusieurs fleurs ont gelé. Ensuite, la chaleur et le manque de pluie ont ralenti la pousse des petits fruits. Résultat, les ours trouvaient moins de nourriture dans les forêts pour se préparer à l'hiver. Certains ont donc été attirés par la ville où il est facile de découvrir des pommiers, des poubelles ou des bacs de compost mal fermés. Pour eux, c'est un vrai buffet. Par exemple, à Hearst, une ville du nord de l'Ontario, le ministère des Richesses naturelles a compté au moins 7 ours dans les rues depuis le début de l'été. À Port-Cartier, dans le nord du Québec, un ours a été vu il y a quelques jours en train de grignoter la pelouse dans une cour. Comment gère-t-on cette situation? Quand un ours se balade dans les parages, la ville installe parfois des cages autour des résidences où les ours causent des dommages pour les ramener en forêt. Mais la meilleure solution, c'est la collaboration de tout le monde. Fermer correctement ses poubelles ou éviter de laisser traîner de la nourriture dehors, ça limite les risques qu'un ours vienne nous visiter. Les autorités peuvent aussi intervenir si un ours devient dangereux, mais ils essaient toujours d'éviter de le tuer. Après tout, les ours ne cherchent pas à attaquer les humains, ils veulent seulement manger. Par contre, une rencontre peut devenir risquée si l'animal est surpris ou effrayé. Que faire si tu croises le chemin d'un ours? Je te rassure, en général, les ours ont autant peur de nous que nous d'eux, mais que faire si tu en croises un? Voici les conseils de Parc Canada. Reste calme et ne cours pas. Recule lentement, sans tourner le dos à l'ours. Fais-toi voir et entendre, parle doucement ou agite les bras pour montrer que tu es là. Ne laisse jamais de nourriture ou de déchets à sa portée. Si tu es avec des amis ou ta famille, restez ensemble. Préviens un adulte ou contacte les autorités. Et toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir un animal de la forêt près de chez toi? Pour ou contre manger de la viande? Un texte de Caroline Bouffard, paru le 29 septembre 2025 dans les As de l'info. Qu'est-ce qui coûte le plus cher à l'épicerie ces temps-ci? Tes parents te le diront, c'est la viande. Bœuf, porc, poulet. Le prix de ces aliments a vraiment augmenté ces dernières années. C'est un casse-tête pour beaucoup de familles. Et il n'y a pas que l'argent. On sait aussi que certains élevages sont très polluants. Ça incite de plus en plus de gens à manger moins de viande ou à devenir végétarien. Tu en penses quoi, toi? Voici les pour et les contre manger de la viande. Les pour, c'est un gros sacrifice. La viande, c'est bon. Pense à tout ce à quoi tu devrais te priver. La lasagne de grand-maman, la fondue chinoise, les barbecues d'été. T'en sens-tu capable? La viande, c'est aussi facile et rapide à cuisiner. Pas besoin d'être un chef cuisinier pour la prêter. En plus, c'est un aliment qui est associé aux fêtes traditionnelles, la dinde et la tourtière à Noël, le jambon à Pâques, etc. C'est très nourrissant. La viande est très riche en protéines. Les protéines sont un peu comme des matériaux de construction de notre corps. Elles servent à fabriquer et réparer presque tout. Elles donnent aussi de l'énergie et aident à apaiser la faim plus longtemps. La viande contient aussi des nutriments essentiels comme le fer et certaines vitamines. Si on coupe la viande, il faut s'assurer qu'on obtienne ces bonnes choses ailleurs. Et ça peut être compliqué. On peut en manger moins et mieux. Sans couper à 100% la viande de notre alimentation, on peut tout de même réduire notre consommation. Peut-être n'en manger que 3 fois par semaine. On peut aussi, en regardant les emballages, choisir d'acheter de la viande bio, provenant d'élevages respectueux des animaux et de l'environnement. C'est plus cher, mais ça peut permettre de manger selon ses valeurs. Les contres. C'est mauvais pour l'environnement. Les grosses fermes d'élevage sont très polluantes. Par exemple, les bœufs produisent beaucoup de gaz à effet de serre en digérant. Le fumier peut polluer les cours d'eau. On doit utiliser de grandes quantités d'eau et de céréales pour nourrir le bétail. Ces ressources pourraient plutôt servir à nourrir des populations qui n'ont pas assez de nourriture. C'est cruel pour les animaux. Les animaux d'élevage ont des vies très difficiles. Ils sont souvent entassés dans des bâtiments dès leur naissance. Ils vivent beaucoup de stress. Et même quand c'est bio, ça reste un animal qui doit mourir pour nous nourrir. Pourquoi leur faire subir ça alors que des alternatives existent? Il y a plein d'autres options. Tempeh à l'indienne, galettes de champignons pour hamburger. La rangée des produits végétariens a grossi dans les dernières années. On ne peut plus se servir de l'excuse que le tofu, c'est plate. Il y a tellement de choix. C'est simple de trouver des recettes et des trucs pour apprendre à cuisiner les substituts de viande. La plupart des restaurants offrent des options végé. Toi, es-tu pour ou contre manger de la viande? Ça bourdonne de guêpes au Québec. Un texte d'Ophélie Delaunay, paru le 25 septembre 2025 dans les As de l'Info. Tu trouves qu'il y a beaucoup de guêpes en ce moment? C'est normal. À la fin de l'été, elles sont plus nombreuses et plus actives qu'au début de la saison. Mais cette année, il semble qu'il y en ait encore plus que d'habitude. Et le réchauffement climatique y est sûrement pour quelque chose. Ça pique ta curiosité? Je t'explique. Un party de fin d'été. Un nid de guêpes, c'est un peu comme une maison qui abrite une très grande famille. La reine, la maman guêpe, pond des œufs qui se transforment en larves, les bébés guêpes. Les larves mangent de petits insectes et des morceaux de viande apportés par les guêpes ouvrières, leurs grandes sœurs. Les ouvrières se nourrissent d'un liquide sucré produit par les larves ou de liquide sucré présent dans les fruits, le jus ou le nectar de fleurs. Comme la reine pond tout l'été, plus les semaines passent, plus il y a d'ouvrières et plus le nid grossit. À l'approche du froid, La reine quitte le nid pour se trouver un petit coin où passer l'hiver dans du bois mort ou dans une fissure. Mais sans reine, plus de petites larves. Les guêpes ouvrières sortent donc toutes du nid pour se nourrir elles-mêmes. Elles cherchent du sucre partout, incluant dans nos pique-niques. Résultat, les guêpes, qui sont déjà plus nombreuses à cette période, sont en plus beaucoup plus visibles. Plus de guêpes cette année? Cet été, des exterminateurs du Québec ont reçu beaucoup plus d'appels que d'habitude pour enlever les nids de guêpes trop proches des maisons. Ils pensent qu'il y a plus de nids que les autres années. Pourquoi? C'est parce que, comme l'hiver a été doux, beaucoup de reines ont survécu et ont créé des nids. Au contraire, quand il fait très froid, beaucoup de reines ne survivent pas et il n'y a pas beaucoup de nids durant l'été. Avec le climat qui se réchauffe, il y a de bonnes chances que les hivers soient souvent assez doux et donc que les guêpes soient nombreuses l'été comme cette année. Les températures plus douces permettent aussi à de nouvelles espèces de guêpes de s'installer au Québec, comme les frelons, qui sont plus gros que les guêpes habituelles. Utiles ou pas, les guêpes? Les guêpes, en général, c'est agaçant, mais elles sont quand même importantes. Pourquoi? Comme les abeilles et plein d'autres insectes volants, elles participent à la pollinisation des fleurs, ce qui nous permet de déguster de délicieux fruits et légumes. Elles débarrassent aussi les jardins d'insectes nuisibles comme les pucerons ou les chenilles. La technique anti-piqûre. Ne laisse pas traîner de déchets et garde la nourriture dans des contenants fermés, sauf quand c'est le moment de la manger. Évite de marcher nu-pied. Ne fais pas de mouvements brusques pour les chasser. Guêpes ou abeilles? Beaucoup de personnes confondent les guêpes et les abeilles. Voici comment tu peux faire la différence entre ces deux insectes. Guêpes, couleur vive, jaune, noir, brun, taille très fine, peu ou pas de poils. Abeilles, jaune et brun, plus ronde et velue. Quand tu vois une guêpe, est-ce que tu as peur de te faire piquer? Est-ce que tu arrives à rester calme ou tu te sauves en courant? Qui est Bad Bunny, vedette du prochain Super Bowl? Un texte de Camille Lopez, paru le 30 septembre 2025 dans les As de l'Info. Qui dit Super Bowl dit gros et très attendu spectacle de la mi-temps. C'est l'un des événements télévisés les plus regardés au monde. Alors, qui montera sur scène en février 2026? Qui marchera dans les pas de Rihanna, Kendrick Lamar, Beyoncé, Lady Gaga et Michael Jackson? Réponse: la star du rap latino, Bad Bunny. Je te le présente. Vamos, ça veut dire « allons-y » en espagnol. La 60e édition du Super Bowl aura lieu le 8 février 2026 à Santa Clara, une ville de la Californie aux États-Unis. On ne sait pas encore quelles équipes s'affronteront. Lapin latin. Bad Bunny, méchant lapin en français, c'est le nom de scène de l'artiste Benito Antonio Martinez Ocasio. Il a 31 ans et vient de Porto Rico. C'est une île des Caraïbes qui fait partie du territoire des États-Unis et où l'on parle espagnol. Il est rappeur, chanteur et même acteur. Il a enregistré 7 albums et joué dans 5 films. Une étoile mondiale. Bad Bunny est l'un des artistes les plus écoutés au monde. Ses chansons ont été écoutées 12 milliards de fois sur Spotify en 2024. Sa musique reflète sa culture. Elle est un mélange de reggaeton, de rap et de rythme traditionnel latin. Si la musique latine est aussi populaire aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui. Les paroles de ses chansons sont majoritairement en espagnol et rendent hommage à sa terre natale. Le chanteur a d'ailleurs dédié son dernier album, Debí tirar más fotos, à tous les Portoricains du monde. En français, le titre veut dire « J'aurais dû prendre plus de photos ». Pourquoi? Parce qu'il trouve bien difficile de voir sa maison et les gens qu'il aime changer. Bad Bunny a remporté 3 Grammy Awards, le prix le plus prestigieux de l'industrie de la musique. La politique au rythme de Bad Bunny. Bad Bunny est un artiste très engagé politiquement. L'album dont je viens de te parler dénonce plusieurs injustices qui se déroulent à Porto Rico, comme les impacts très négatifs du tourisme sur l'environnement et la population. C'est le thème de sa chanson « Turista ». Aux dernières élections présidentielles, il a donné son soutien à l'adversaire de Donald Trump, Kamala Harris. Et il critique aussi les lois américaines sur l'immigration. Il a décidé de ne pas s'arrêter aux États-Unis pendant sa tournée mondiale pour protester contre les nombreuses arrestations de migrants. Un Super Bowl pour sa culture. On s'attend donc à ce que son spectacle de la mi-temps passe un ou plusieurs messages politiques et qu'il nous fasse voyager à Porto Rico. Ce spectacle, c'est pour ceux qui sont venus avant moi, pour mon peuple, pour ma culture, pour notre histoire. Ve y dile a tu abuela que seremos el halftime show del Super Bowl, a déclaré Bad Bunny dimanche. La dernière phrase écrite en espagnol veut dire « Va dire à ta grand-maman que nous faisons la mi-temps du Super Bowl. » Et toi, écoutes-tu de la musique dans une autre langue que le français? Si oui, laquelle? Hey, 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 4 de julio, perla y uray. Ando con mi prima borracha rulay. Los míos en el Bronx, saben lo que hay. Con la nota en hoy, por Washington hoy. Willy Colón me dicen el malo. Je flotte. La nouvelle vie de la toile du Stade olympique, un texte de Caroline Bouffard, paru le 22 septembre 2025 dans les As de l'Info. Depuis le début de l'été, un bateau bien spécial navigue sur le fleuve Saint-Laurent à Montréal. Sa coque a été fabriquée à partir de l'ancienne toile du Stade olympique. En fait, presque tout le voilier est fait de matériaux recyclés. Je te raconte. Des travaux sont en cours pour remplacer le toit du Stade olympique à Montréal. Jusqu'à l'an dernier, c'était une immense toile de la taille de 26 patinoires qui recouvrait l'ouverture. Le parc olympique souhaite que cette toile soit récupérée et réutilisée. Il a donc lancé un concours au printemps 2024 pour trouver des idées. Un organisme a eu la chance de recevoir 2 rouleaux de toile en cadeau. C'est l'organisme Jeunes Marins Urbains qui a pour mission de faire connaître les sports de voile aux Montréalais. Il permet de s'initier gratuitement aux bateaux à voile et d'apprendre à construire un bateau. On l'oublie parfois, mais Montréal est une île. Yves Plante, le fondateur de Jeunes Marins Urbains, a tout de suite vu le potentiel de la toile. Il allait essayer d'en faire une coque de bateau. Il travaillait déjà avec de la toile, mais celle du stade est beaucoup plus résistante. Aidé d'une douzaine de personnes, il a construit ce bateau unique. Sa structure est faite de bois de frêne abattu à Montréal. Des marches d'échelles recyclées servent de banc. Et la fameuse toile permettent au bateau de flotter. Le voilier a passé avec succès son premier test de navigation le 22 juin dernier. Il a ensuite sillonné les rives de Montréal tout l'été avec des apprentis marins à son bord. Toi, aimes-tu naviguer? Quelle est ton embarcation préférée? Le pédalo? La planche à pagaie? Le canot? raconte. Pour ou contre les pancartes électorales? Un texte de Caroline Bouffard, paru le 22 septembre 2025 dans les As de l'Info. Tu les as sûrement vus sur ta rue ou près de ton école. Les pancartes électorales sont partout au Québec. Ce ne sont pas des œuvres d'art. Elles servent à annoncer les élections municipales du 2 novembre et à présenter le ou la candidate de chacun des partis qui se présente dans ta municipalité. À certains endroits, il y a vraiment beaucoup de pancartes. Des politiciens et des citoyens se demandent si elles sont vraiment utiles. Voyons quels sont les pour et les contre des pancartes électorales. Les pour. Un moyen de se faire connaître. Les pancartes sont très utiles pour les candidats. Elles leur permettent de se faire connaître des électeurs dans leur circonscription. En un coup d'œil, on a toute l'information. Leur nom et leur parti. C'est efficace. C'est bien encadré. Les pancartes ne sont pas faites n'importe comment et posées n'importe où. Il y a des règles. Le message qu'on y lit doit avoir été approuvé. Il y a des dates d'affichage à respecter et des endroits où elles sont interdites. Les pancartes qui ne respectent pas ces règles sont retirées. Ça limite les abus. Ça encourage à aller voter. Ce n'est pas tout le monde qui s'informe comme toi, ou qui a accès à Internet ou à la télévision. Pour une partie de la population, les pancartes sont souvent le seul moyen de savoir qu'une élection s'en vient. À chaque élection, on constate que beaucoup de citoyens ne votent pas. Tous les moyens sont bons pour encourager les gens à voter. Les pancartes en font partie. Les contres. Ça pollue. Les pancartes, ce sont des milliers de panneaux de plastique qui sont imprimés et qui ne servent qu'une trentaine de jours. C'est du gaspillage. En plus, on pollue en utilisant des véhicules pour les poser et les retirer. Et c'est sans parler de l'autre forme de pollution qu'elles génèrent. La pollution visuelle. Des rues tapissées de pancartes. C'est loin d'être beau. C'est dépassé. On ne choisit pas pour qui on vote simplement en regardant des photos. Il existe d'autres moyens de découvrir les candidats, surtout maintenant, avec les réseaux sociaux et Internet. Les affiches avec des slogans posés sur des poteaux, c'est d'une autre époque. C'est injuste pour les petits partis. Photographes, coiffures, maquillage, retouches, impressions, tout ça coûte très cher. Les gros partis peuvent peut-être se le permettre, mais les plus petits partis n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas non plus une armée de bénévoles pour en poser partout. Ils doivent donc opter pour des affiches plus petites ou en noir et blanc. Ou pas de pancarte du tout. C'est injuste. Et toi, es-tu pour ou contre les pancartes électorales? Elles ont été désignées « filles de l'année » par le grand magazine Time. Un texte de Clémence Tessier paru le 20 septembre 2025 dans les As de l'Info. Aujourd'hui, je te présente des jeunes filles vraiment inspirantes. Elles ont entre 12 et 17 ans et viennent de plusieurs pays dans le monde. Ce qu'elles ont en commun, elles se retrouvent toutes sur la première liste des filles de l'année du célèbre magazine américain Time. Cette nouvelle liste met en lumière des jeunes filles qui se sont démarquées lors de la dernière année, que ce soit pour leur créativité, leurs idées ou leur envie de changer le monde. Allons en rencontrer quelques-unes. Naomi S. DeBerry, militante. Quand Naomi avait 6 ans, elle a appris que son père avait besoin d'une greffe de rein. même si c'était une période difficile, elle a voulu raconter son histoire pour aider d'autres enfants dans la même situation. L'année dernière, elle a publié un livre appelé « My Daddy Needs a Gift », en français « Mon papa a besoin d'un cadeau ». Aujourd'hui, Naomi a 12 ans et heureusement, son père a reçu un nouveau rein. La jeune fille continue de partager son histoire et de sensibiliser le public à l'importance des dons d'organes lors de conférences, d'entrevues ou même à la télévision. Naomi a dit au magazine Time « Si quelque chose te paraît important et que tu veux en parler aux autres, n'hésite pas. Tu ne sais jamais comment ça peut aider quelqu'un qui traverse la même situation. » Daphne Osgan, aventurière. L'histoire de Daphne est très impressionnante. À 16 ans, elle est devenue la plus jeune Turque à piloter un avion seule. En commençant l'école de pilotage à l'âge de 15 ans, elle voulait montrer que les filles pouvaient aussi rêver grand, même dans des métiers plus scientifiques ou techniques où elles sont habituellement moins nombreuses que les garçons. Pour se calmer avant son premier vol, Daphne a chanté sa chanson préférée du film Wicked, Defying Gravity, en français, Défiant la gravité. La jeune fille rêve de devenir ingénieure mécanique et elle espère inspirer d'autres filles à suivre leur passion dans tous les domaines. Coco Yoshizawa, athlète. Si le visage de Coco te dit quelque chose, c'est normal. L'an dernier, cette adolescente japonaise a gagné la médaille d'or en skateboard aux Jeux olympiques de Paris, à seulement 14 ans. Coco a commencé à skater à 7 ans et a beaucoup pratiqué malgré les chutes. Elle a confié au magazine Time que, pour rester calme avant la compétition, elle s'est répétée de s'amuser plutôt que de penser à gagner. Coco Yoshizawa veut montrer que même les plus jeunes peuvent réussir à accomplir de grandes choses. Et toi, est-ce qu'il y a une jeune fille dans ton entourage qui t'impressionne ou qui t'inspire? Laquelle et pourquoi? C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Gilbert, Eva, Mathieu et Samuel.